les conférences de Radio Vassivière.
Le 7 février 2015 avait lieu les deuxièmes rencontres du réseau Zone Humide à Royères de Vassivière. Radio Vassivière était partenaire de cet événement, organisé à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, le Parc naturel régional Mille Vaches en Limousin et l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Afin de répondre à une dégradation persistante des zones humides, le réseau de gestionnaires de ces espaces est basé sur le volontariat et s'adresse aux exploitants agricoles ou forestiers, aux collectivités territoriales ou aux particuliers. Il regroupe dans la région plus de 110 adhérents sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. La journée s'est organisée autour de trois tables rondes. Nous vous proposons d'écouter la troisième d'entre elles, qui avait pour thème « Forêt et zone humide ». Parmi les intervenants, Peggy Chevillé, ingénieur environnement à la communauté de communes de Bourganeuf-Royères de Vassivière, Guillaume Rodier, chargé de mission au PNR de Mille Vaches en Limousin, Philippe Joran, gérant du groupement forestier de la Brose à Gensioux, et Éric Payot, de la coopérative forestière Bourgogne-Limousin.
On va commencer avec la gestion des ripisylves. Elle est ingénieure environnement à la communauté de communes de Bourganeuf-Royères de Vassivière. Et c'est donc Peggy que nous accueillons en premier.
Donc je vais vous parler des boisements de berge. Donc pourquoi et comment entretenir les boisements de berge? Les boisements de berge, donc, comme je disais tout à l'heure, le mot utilisé, on va dire, et pour l'appeler, c'est la ripisylve. Donc pour qu'une rivière fonctionne correctement, il faut que l'ensemble de cette végétation de berge soit en bon état. La ripisylve a différentes fonctionnalités. D'abord, elle constitue un habitat pour la faune et la flore et sert de couloir écologique, c'est-à-dire de couloir sur lequel la faune et la flore se déplacent. Et ce déplacement des populations animales et végétales permet notamment les échanges génétiques qui sont nécessaires à la survie des populations. Donc effectivement, il y a plusieurs types de déplacements. Bon, vous imaginez bien que les plantes ne se déplacent pas. Ce sont donc par les graines qui peuvent être déplacées par le vent, par les animaux, mais aussi dans l'eau. Autre fonctionnalité, de par leur système racinaire, les plantes, donc les arbres, les arbustes, permettent de maintenir les berges. Cette végétation permet aussi également de réguler les crues en ralentissant la vitesse de propagation des crues. L'ombrage qui est apporté par le feuillage permet de créer des zones d'alternance d'ombre et de lumière qui sont bénéfiques au bon fonctionnement de la rivière en maintenant une bonne température de l'eau et en atténuant les variations journalières. Donc ces éléments-là sont souvent indispensables à la survie de certaines espèces, telles que la truite fario, qui a besoin d'une température d'eau relativement froide pour se développer et bien se reproduire. Les racines permettent également d'épurer l'eau et de piéger un certain nombre d'éléments, de polluants, comme les nitrates, les phosphates. Donc ça a vraiment un rôle, ça participe à l'auto-épuration des cours d'eau, qui ont une capacité donc de se nettoyer tout seul. Donc d'autres petites fonctions, chez nous il y a quand même pas mal de forêts, donc l'effet brise-vent n'est pas essentiel, mais ça y participe. Structuration du paysage et aussi le lieu d'activité récréative. Donc une ripisylve en bon état, pour résumer, c'est une ripisylve où on a une végétation d'une largeur suffisante, une bande naturelle, avec des alternances de zones d'ombre et de zones ensoleillées, la présence d'éléments comme des feuilles, du bois dans l'eau, qui participent à l'alimentation de la faune, et aussi différentes strates de végétation, arbres, arbustes et herbacées. Toutefois, donc ça c'est la situation un petit peu idéale, donc forcément on a des atteintes à ce bon état de la ripisylve, donc qui ont différentes causes. Donc il y a Déjà, une situation dans certains cas de non-entretien, comme le montre la photo, là où c'était encore une photo d'hiver, donc vous imaginez quand il y a des feuilles, la rivière elle voit plus du tout la lumière, donc ce qui n'est pas forcément favorable à la biodiversité. Ce non-entretien bon, a différentes causes, la déprise rurale, le morcellement des propriétés en Limousin qui est très connu, la difficulté pour la population, des propriétaires qui sont propriétaires de terrain, mais ils n'ont pas les moyens de les entretenir. Donc cet ensemble participe dans certains cas sur les zones vraiment les zones les plus boisées, comme souvent dans ce territoire-là où on a pas mal de zones qui ne sont pas du tout entretenues. D'autres situations où là c'est pas le non-entretien, mais c'est une gestion inadaptée, disons, où on peut avoir effectivement des plantations d'essences qui sont inadaptées en bord de cours d'eau, comme donc les essences résineuses en particulier, qui plantées juste en bord de cours d'eau ne sont pas adaptées de par leur système racinaire, n'arrivent pas à tenir les berges comme les essences feuillues peuvent le faire. Donc ça crée des désordres dans le fonctionnement de la rivière. Et on a également des situations d'exploitation souvent des zones boisées qui sont faites d'une façon inadaptée, c'est-à-dire jusqu'en bord de cours d'eau. Et donc là, on a une photo en bas à droite où il y a une exploitation qui s'est faite vraiment jusqu'en bord du cours d'eau. Donc toute la végétation a été retirée. Donc ça, c'est à ne pas faire. Donc la réglementation indique que l'entretien doit être fait par les propriétaires des terrains. Parce qu'il faut savoir que la rivière, en fait, appartient aux propriétaires qui sont riverains du cours d'eau. La moitié du cours d'eau appartient au riverain qui est d'un côté. Et de l'autre côté, si c'est un riverain différent, il est propriétaire de l'autre moitié du cours d'eau. Alors il n'est pas propriétaire de l'eau qui coule, puisque c'est un bien inaliénable, mais il est propriétaire du fond. De par ce fait, il a l'obligation de faire un entretien régulier du cours d'eau. Alors bon, comme on a vu, il peut y avoir des entretiens qui sont malheureux, qui sont trop drastiques et qui sont contre-productifs. À ce moment-là, il faut mieux rien faire. Mais un entretien qui est régulé, enfin, je vais l'expliquer un petit peu après, qui est adapté et bénéfique.
Donc là, je vous interromps. Donc là, on a fait l'état des lieux. On a vu tous les mauvais exemples, tout ce qu'il ne fallait pas faire. On a vu aussi tous les bénéfices quand c'est bien entretenu, avant même de restaurer. Et là, vous allez nous dire donc comment on peut restaurer.
Oui, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, dans les situations justement où on a vu certains propriétaires n'arrivaient pas à entretenir leur terrain, les collectivités et les syndicats de rivières peuvent intervenir, mais que dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général. Donc en fait, c'est une procédure réglementaire qui permet aux collectivités de se substituer aux propriétaires. Donc en général, ça se fait, comme dans le programme Source en Action, dans le cadre de contrats de rivière structurés et organisés et qui ont une logique par bassin versant. Toutefois, les interventions sont forcément limitées, puisque faire intervenir des entreprises pour entretenir des kilomètres et des kilomètres de cours d'eau, c'est un coût, forcément, et que chaque collectivité fait ce qu'elle peut, mais elle fait en fonction des priorités, et puis avec les limites financières qu'elle a. Quelques éléments d'entretien, de conseils d'entretien, on va dire, de la végétation de berge. Donc en fait, la végétation de berge n'a pas besoin d'être entretenue tous les ans. Dans les conseils, c'est tous les 3 à 5 ans, mais ça dépend de chaque situation, est différente, ça dépend des essences. Donc là, vous avez une photo en haut à gauche, où c'est une des zones où l'entreprise que nous avons mandatée est intervenue. Donc vous voyez, c'est vraiment une intervention très fine où on va couper sur une CP, sur un ensemble d'arbres, on va se couper que quelques-uns. Donc après, en bas, l'intervention est plus drastique parce que ça, c'est dans des cas où l'entretien n'a pas été fait depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc la végétation est dans un tel état que des fois, on ne peut pas faire autrement que de tout couper, enfin sur une petite partie. L'idée, c'est de faire une coupe sélective pour supprimer les arbres trop penchés, conserver quelques sujets et éclaircir les CP. Donc après, il y a aussi des actions un petit peu de débroussaillage Mais souvent, donc quand on parle de débroussaillage, on pense à la ronce. Ces débroussaillages, bon, on sait que la ronce, hein, ça repousse chaque année. Ça, c'est pas un élément. Le fait qu'il y ait de la ronce n'est pas un problème pour l'état écologique du cours d'eau. Certes, ça peut ne pas faire propre, mais ça, c'est pas l'objectif, hein, en général des programmes de restauration de rivières. Si le propriétaire veut que ça soit propre, il le nettoie lui-même. Mais les broussailles, les bosquets, ça participe à la biodiversité du cours d'eau et à la présence d'habitats différents. Donc pour finir, voilà quelques derniers conseils. Donc pour qu'il y ait un bon fonctionnement, il faut qu'il y ait une largeur suffisante, donc normalement supérieure à 3 mètres. Bon, c'est assez rare, à part dans les zones boisées où on a 3 mètres de ripisylve, hein. Donc dans les zones agricoles, par exemple, déjà si on arrive à garder une ligne d'arbres, c'est très bien. À ne pas planter d'espèces inadaptées en bord de cours d'eau, donc on a vu. À ne pas dessoucher surtout. Donc jamais, même en cas de résineux, si on les coupe, on ne dessouche pas parce que ça déstructure les berges, ça les fragilise et risque de créer des érosions. Et dans certains cas, on peut enlever certains arbres qui tombent en plein milieu du cours d'eau, qui créent des obstacles et qui parfois provoquent des phénomènes d'érosion sur les berges et ont des conséquences autres.
Il y a peut-être des questions. Est-ce qu'on a parlé de... Donc, on rappelle que vous travaillez sur ce territoire, Bourganeuf, hein, Regard de Vassivière. Vous êtes ingénieur environnement pour la communauté de communes. Vous avez donné le chiffre en kilomètres linéaires qui est concerné, ou vous... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en parler? Celui qui a déjà peut-être été nettoyé, celui dont vous avez pu faire le recensement.
En deux mots, sur le territoire de la communauté de communes de Bourganeuf, Royère de Vastivière, on a environ plus de 500 km de cours d'eau. Et en fait, là, pour l'instant, donc, le programme Source en Action a commencé en 2011. Donc on a 4 ans d'intervention, et sur les 4 ans, on a restauré 18 km de berges. Donc c'est pas 18 km de cours d'eau, parce qu'il faut le diviser par deux. Donc du coup, ça fait que 9 km. Mais pour faire 9 km de cours d'eau, il faut environ 65 000 euros en prenant une entreprise. Donc vous vous rendez compte que la collectivité peut pas entretenir
500 km.
Voilà, c'est pas possible. Donc on priorise certains secteurs qui nous semblent, voilà, c'est des secteurs à enjeu, mais il y a une grande partie dans le programme qui est de la communication et de la pédagogie, sensibiliser les propriétaires. Donc ça fait partie aussi des missions, et parce que de toute façon on ne pourra pas tout faire, quoi.
Et pour le coup, la sensibilisation, ça fonctionne doucement?
Disons que, enfin, on n'a pas, oui, enfin, toutes les actions qui sont faites dans ce sens-là fonctionnent. Les gens, voilà, mais après au niveau des résultats, je pourrais pas vous dire. Pour l'instant, c'est trop jeune aussi comme intervention.
La sensibilisation, vous avez commencé quand? Pareil en 2011?
Oui, tout à fait. Oui.
Est-ce que l'élu veut s'exprimer à ce sujet?
Oui, justement, pour dire par rapport à la sensibilisation, là, au mois de novembre, il y a eu deux journées sur Bourganeuf-Royère, donc ce qu'on appelle le hall de l'agriculture à Bourganeuf, où il y a eu plus de 300 participants sur les deux jours, sur des ateliers de vulgarisation scientifique, de prise de conscience de ce qu'est un cours d'eau, ce que sont les insectes aquatiques et les enjeux liés au territoire, pour tout public, donc public scolaire et public adulte.
300 personnes, on peut imaginer que ça va donner des résultats en 2015. Une question? Oui.
Une question tout à fait pratique. Est-ce qu'un riverain qui veut couper des arbres lui-même, donc sur le bord du cours d'eau où il est propriétaire, doit le faire dans des conditions particulières par rapport à la loi sur l'eau? Est-ce qu'il y a des déclarations à faire, des choses comme
non,
ça?
Non, tout à fait. Non, il n'y a pas. En fait, comme c'est une règle, en fait, il faut que le propriétaire entretienne. Il n'y a pas de règlement. C'est de l'entretien classique, en fait. Ça concerne l'entretien classique du cours d'eau, donc c'est pas recalibrer un cours d'eau et tout ça. Du moment où c'est fait de façon justement adaptée, donc en laissant de la ripisylve et pas en faisant une coupe rase de la ripisylve, il n'y a aucun problème, quoi.
Bon, merci beaucoup. Merci encore. Deuxième intervenante pour cette table ronde qui concerne donc les forêts et les zones humides, Séverine Écuvillon. Vous faites fait partie de l'unité politique de l'eau, mission interservice de l'eau et de la nature. Vous travaillez pour le service de l'environnement, de la police, de l'eau et des risques pour la direction départementale des territoires de la Corrèze.
Donc en fait, je suis chargée de l'animation des politiques de l'eau à la direction départementale des territoires de la Corrèze et co-animatrice du groupe de travail Civiculture et Milieu Aquatique. Donc en fait, je vais vous présenter le groupe de travail Civiculture et Milieu Aquatique. Pourquoi on a monté ce groupe de travail? Quelle est son histoire? Qui en fait partie? Ce qu'il a réalisé et grâce à quel soutien financier?
Oui, donc tout le monde aura le guide, on pourra prendre le guide, donc écoutez bien ce dont il s'agit.
Qu'est-ce qui a fait qu'on a monté ce groupe de travail? En fait, ce qu'il faut constater, c'est qu'on a des milieux aquatiques qui sont dégradés du fait de certaines pratiques civicoles. En fait, ce qu'on constate, c'est un problème d'érosion lié à des passages d'engins sur des pistes. À certains moments de l'année, quand la piste elle est remplie d'eau, la terre elle ne tient pas. Là aussi, lorsque les passages d'engins se trouvent sur les berges, passent sur les berges, et aussi lorsque on pratique des coupes au niveau des souchages et des sous-solages au niveau des parcelles. Ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça a fait une arrivée en masse de matières organiques et minérales dans le cours d'eau. Autre problème aussi, c'est que quand des engins passent sur les cours d'eau et les traversent, les berges se trouvent écrasées. Et ça aussi occasionne des problèmes et notamment une disparition des habitats propres à certains animaux tels que les truites. Une des problématiques, c'est la ripisylve, comme on l'a vu, qui est supprimée le long des cours d'eau et qui peut quelquefois être remplacée par des espèces d'arbres qui ne sont pas adaptées à ce milieu-là, notamment les résineux. Autre point qui dégrade les milieux aquatiques dans le cadre des activités civicoles, c'est l'utilisation de traitements phytosanitaires. Notamment, un des traitements phytosanitaires qu'on retrouve par rapport aux résineux, c'est la lutte contre l'ilope. En fait, c'est un petit charançon qui s'attaque aux résineux et qui les fait mourir, les jeunes résineux. Autre incident aussi qui peut avoir des effets sur les milieux aquatiques, c'est les déversements accidentels d'hydrocarbures et d'huile de chêne de tronçonneuse et d'huile pour les circuits hydrauliques des machines, des grosses machines que vous voyez qui coupent les arbres. Donc en fait, par rapport à tous ces phénomènes, on a des cours d'eau, notamment par rapport à l'arrivée en masse de matières organiques, qui se retrouvent colmatées. Ces milieux colmatés, en fait, ça fait que des habitats disparaissent pour les espèces et au final, on a un habitat disparaît par rapport à la ripisylve, qu'on le supprime. Aussi, une eau polluée liée à la présence de phytosanitaires, d'hydrocarbures et de matières organiques et minérales dedans le cours d'eau. Ça perturbe l'écosystème qui perd au final ses capacités d'auto-épuration. Et au final, en fait, nos activités s'en trouvent endommagées puisque, en fait, les usages qui sont liés à l'eau tels que l'eau potable, l'abreuvement, les baignades, la pêche, les activités touristiques, elles peuvent être compromises suite à ces dégradations. Et on peut avoir des surcoûts, notamment par rapport à l'eau potable, si en amont on a cette arrivée de pollution, soit de matière organique ou de phytosanitaire, on a un surcoût dans le traitement de l'eau potable. Et aussi, si on a des milieux dégradés, on a au final des pertes économiques. Autre raison qui explique aussi qu'on a monté ce groupe de travail, au niveau de l'Europe, on a une exigence qui est réglementaire, qui est qu'on veut atteindre le bon état des milieux aquatiques à des échéances et leur non-dégradation à des échéances plus loin ou moins lointaines, 2015, 2021 et 2027. Enfin, l'activité forestière, ça quand même fait partie de notre économie. Et de plus, elle est en plein développement et du fait d'une demande croissante en bois énergie. Et si dans le Limousin, donc, cette activité forestière, elle est importante, il y a lieu de la maintenir parce qu'elle constitue aussi une richesse de notre territoire. Donc au final, il s'agit pour le groupe de travail, l'enjeu était bien de concilier le développement des activités forestières et la préservation des milieux aquatiques. Ce groupe de travail, en fait, il a été créé en 2011 par la communauté de communes des Gorges de la Haute-Dordogne, qui est située en Corrèze. Et il a été repris en 2012 par la Direction départementale des territoires de la Corrèze. La DDT, la Direction départementale des territoires de la Corrèze, l'a élargie sur le plan territorial, puisqu'elle elle a repris tout le département, et l'a ouvert à d'autres acteurs, tant du domaine forestier, et à des acteurs du milieu aquatique. En fait, il s'agissait de ne pas créer autant de groupes de travail qu'il y avait d'établissements publics de coopération intercommunale qui travaillaient sur les milieux aquatiques, en vue de faire des économies de moyens et d'échelle. Actuellement, donc, la DDT 19 donc, pilote ce groupe, en assure le secrétariat et le co-anime avec la communauté de communes des Gorges de la Haute-Dordogne qui l'avait initié. À son actif, le groupe a réalisé 9 réunions depuis 2011. La dernière date de l'année dernière, du 18 novembre 2014. Ce groupe, il est constitué de différents acteurs, tant des milieux aquatiques que des milieux forestiers. En fait, il s'agissait de faire côtoyer ces deux mondes, de faire en sorte qu'ils échangent entre eux, qu'ils comprennent leurs problématiques, pour que chacun, en ayant connaissance des problématiques de chacun, on arrive à mieux s'entendre. La composition du groupe a au cours du temps évolué en fonction aussi des demandes que les membres faisaient. Certaines fois, il apparaissait plus pertinent d'avoir un acteur autour de la table et donc le groupe s'est constitué en fonction de ses besoins. Ce groupe de travail est constitué de 28 membres. Alors, ces membres, je ne vais pas toutes citer. Donc, nous avons des représentants des agences de l'eau, des représentants des collectivités locales, comme la région, le département, les établissements publics de coopération intercommunale, les communes forestières. Nous avons aussi des représentants des propriétaires forestiers, tels que le Centre régional de la propriété forestière, des groupements de développement forestier, des syndicats, le syndicat des forestiers privés du Limousin. On a aussi les entreprises forestières qui sont représentées via la Chambre d'agriculture, les entrepreneurs du territoire du Limousin, les experts forestiers, les exploitants forestiers. On a aussi des organismes techniques qui sont représentés, tels que l'Institut technologique forêt, cellulose, bois, ameublement, un centre d'études techniques forestières du Limousin, un chercheur aussi de l'Institut national de recherche agronomique de Nancy, des centres de formation comme le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de MEMAC, et puis des représentants des milieux aquatiques, notamment l'association de pêche de la Corrèze bien évidemment le conservatoire d'espaces naturels du Limousin et le parc naturel régional Mille Vaches en Limousin. Par rapport à l'enjeu qui est de concilier le développement des activités civicoles et la préservation des milieux aquatiques, le groupe de travail s'est fixé deux objectifs opérationnels. Réaliser un guide des bonnes pratiques civicoles en milieu aquatique et, bien sûr, accompagner les acteurs du territoire pour que ces bonnes pratiques soient mises en œuvre sur le terrain. À l'heure d'aujourd'hui, ces objectifs sont à peu près remplis, puisque le guide des bonnes pratiques civiculture et cours d'eau est imprimé et donc à votre disposition. Et des formations ont été réalisées et d'autres sont programmées. On passe maintenant au guide. Donc voilà la première page du guide, du civiculture et cours d'eau. Donc ce guide est composé de 3 parties. La première présente la forêt et les cours d'eau. La deuxième partie présente les impacts possibles de l'activité civicole sur le cours d'eau. Et enfin, la dernière donne des conseils pour chaque étape civicole. Le but est bien de sensibiliser, informer et conseiller avec ce guide. Et on a fait un guide qui s'adresse véritablement au monde forestier dans le sens où on présente toutes les étapes sylvicoles. La première partie, donc, qui présente la forêt et les cours d'eau, où on met en avant que quand même la forêt est un atout pour l'eau. Donc la deuxième partie indique comment fonctionnent les milieux aquatiques, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qui peut les perturber et quelles sont les conséquences et les perturbations sur les milieux et les usages. La troisième partie, donc c'est pour chaque étape sylvicole, vous avez une fiche technique qui indique en objectif qu'est-ce qu'on souhaite tant pour l'activité forestière que pour la préservation des milieux aquatiques. Quelles sont les situations problématiques rencontrées? Que dit, il y a un rappel à la réglementation, que dit la réglementation et qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'elle impose. Ensuite, on passe aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre aux objectifs et quelles sont les aides qui existent en matière tant financière que humaine. Humaine, par exemple, par rapport à des conseils qui peuvent être apportés par des structures telles que des communautés de communes qui sont dotées d'un technicien rivière ou, par exemple, si on a une chambre d'agriculture. Ces conseils-là, en fait, on indique quelles sont les structures qui peuvent les apporter et en annexe, on donne pour chaque département, puisqu'en fait, ce guide est destiné plus au Limousin et donc à ces trois départements, on donne pour chaque département quelles sont les structures avec leurs coordonnées qui peuvent répondre aux besoins que vous avez en matière de conseils. Le guide des bonnes pratiques donc, en fait, résulte d'un travail de co-construction. Ce sont bien évidemment les acteurs des milieux forestiers et aquatiques qui ont réalisé ensemble ce guide. Son élaboration a été l'occasion d'échanges, de débats. Des questions seront remontées. Et au final, malgré tout, on a su convenir et définir ensemble d'un contenu partagé. Je voulais dire aussi que ça a été un processus au long cours, parce que depuis 2011 jusqu'à son édition en 2014, on a eu toujours, malgré tout, des membres impliqués qui ont bien voulu participer à ce travail de construction. Actuellement, donc, on a imprimé 6500 exemplaires de ce guide, avec une version électronique qui se trouve accessible sur le site internet des services de l'État en Corrèze et dont vous voyez l'adresse ci-dessous. La diffusion de ce guide a commencé en 2014 et on a fait un envoi en nombre en fin octobre auprès des entrepreneurs et exploitants forestiers, de tous les entrepreneurs et exploitants forestiers du Limousin, de toutes les communes du Limousin, des coopératives forestières, des experts forestiers, des gestionnaires forestiers professionnels. Et ensuite, ce guide va être diffusé via des structures comme les services de l'État, les directions départementales des territoires des trois départements, le centre régional de la propriété forestière, et puis d'autres structures comme les structures qui ont une compétence en milieu aquatique, comme le Conservatoire naturel des espaces naturels du Limousin. Excusez. Donc un guide ne suffisant pas, il fallait accompagner les acteurs pour que ces bonnes pratiques soient connues, qu'on puisse montrer leur intérêt et montrer aussi par ailleurs qu'elles sont réalisables. Donc à l'heure, on a considéré qu'il fallait prévoir 6 formations. Alors on a prévu 6 formations gratuites sur le Limousin à raison de 2 par département. Et ces journées sont des journées thématiques, une portant sur la voirie forestière, d'autres sur le franchissement de cours d'eau, une autre sur l'eau et les travaux forestiers, de la préparation du sol jusqu'à la plantation, et une autre encore sur la thématique de l'eau et les travaux forestiers, de l'éclaircie jusqu'à la coupe. Donc, comme je le disais, informer, expliquer et montrer sur le terrain les bonnes pratiques indiquées dans le guide. La cible prioritaire, ce sont les professionnels forestiers, les entrepreneurs de travaux forestiers, les exploitants, les conseillers forestiers, les experts forestiers, les donneurs d'ordre et les techniciens rivières. Mais toutefois, ces formations restent ouvertes aux propriétaires, tant privés que publics. À l'heure d'aujourd'hui, au niveau de la programmation, 3 formations ont eu lieu. 2 en Corrèze, une à Meymac sur le chantier forestier et le franchissement de cours d'eau, et une autre à Neuvic sur la voirie forestière. Et par rapport au franchissement de cours d'eau, à Rochechouart, dans la Haute-Vienne, il y en a eu une. L'ensemble de ces réalisations n'aurait pu se faire sans des soutiens financiers, et notamment les 2 agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, l'Europe, via le Fonds européen de développement régional, la région Limousin aussi a mis sa contribution, et l'association Initiative Biosphère Dordogne. Ce financement a été complété par une participation aussi financière d'une partie des membres du groupe de travail. Voilà, j'espère avoir été claire.
Oui, oui, vous l'avez été, merci. Et puis de toute façon, alors on a pu distribuer, puisqu'il n'avait pas été mis dans les pochettes, on a pu distribuer le guide à tous ceux qui le souhaitaient. Ils ont donc en leur possession ce guide, avec, j'imagine, donc, vous l'avez bien indiqué, toutes les coordonnées nécessaires pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci bien. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, il y a une question. Stéphane Loriot.
Oui, je me demandais, en termes de modalités de suivi de la mise en œuvre de ces pratiques, est-ce que vous avez réfléchi à cette partie-là ? Est-ce que vous travaillez sur ce...
C'est vrai qu'en matière de suivi, comme l'avait suggéré aussi le parc naturel régional de Millevaches-en-Limousin, Guillaume, le but c'est aussi de valoriser en fait tout ce qui est fait et qui correspond à ce qu'on préconise dans le guide. Là maintenant, c'est sûr qu'il faudra une participation active des acteurs du territoire pour nous faire remonter l'information, et nous, on pourra la mettre soit la mettre sur le site internet en mettant en avant, il y a des propriétaires forestiers qui, avec des entrepreneurs de travaux forestiers qui se sont lancés, qui ont mis en œuvre ces bonnes pratiques et montré par des photos et même donné des contacts pour que tant les propriétaires que les exploitants et les autres acteurs forestiers puissent les contacter s'ils ont besoin d'informations.
Derniers intervenants au pluriel, ils sont 3. Ils ont été présentés comme le trio de choc. Guillaume Rodier, qui est technicien au parc, chargé de mission. Non, c'est une définition qui m'a été donnée par quelqu'un qui a initié ces deuxièmes rencontres. Philippe Joran, qui est propriétaire, et Éric Payot, qui nous parlera donc des travaux qu'il a effectués sur ce territoire.
Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, je débute la présentation tripartite concernant un chantier forestier qu'on va mener. Je parle au futur puisque au départ il devait être initié lundi dernier, mais vu les conditions climatiques, on a repoussé le chantier. Donc sur la commune de Gensioux, une tourbière qui a été plantée dans les années 60-70 et qui pose des soucis de fonctionnement hydrologique de ce milieu. Je commence, alors j'ai pas entendu toutes les réponses de la question de Stéphane Loriot. Je voulais quand même préciser un élément, c'est que entre la dynamique d'un groupe de travail d'experts, de professionnels du monde forestier, du monde des gestionnaires de l'environnement, effectivement, aujourd'hui, il y a un guide pratique qui est mis en place et qui est en libre circulation un peu partout, sur Internet également. Il y a des formations qui sont initiées et proposées sur l'ensemble du Limousin. Ce n'est pas une finalité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir des résultats concrets aussi sur le terrain. Et ça, on est, pour l'instant, on n'est pas très bon, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, on améliore certaines connaissances, certains fonctionnements entre les diverses structures, mais on est loin d'être dans une... Il n'y a pas de parallèle à faire entre les outils qu'on peut proposer pour le monde agricole et les outils qu'on peut proposer pour le monde forestier. Et ça, c'est un réel manque pour lequel on essaye de pallier, notamment par l'intermédiaire du contrat sur son action. J'en suis le co-coordonnateur, donc je le valorise et on essaye d'y travailler. Donc voilà, pour cette petite précision, et j'en rajouterai une aussi, c'est que la DDT 19, donc Direction départementale des territoires, a également mis en place une carte dynamique sur son site qui est, ma foi, un gros travail, et c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que chaque structure, que ce soit le propriétaire, la coopérative, l'expert forestier, mais aussi le gestionnaire, le technicien rivière, peut aller sur cette carte interactive, cliquer sur une commune et de suite avoir un listing des interlocuteurs qui peuvent aider dans une démarche eau et sylviculture. Donc à ne pas oublier, et ça va au-delà, c'est-à-dire que pour participer à cette dynamique, à cette synergie des acteurs, j'invite tout le monde à mettre ses liens sur des pages d'actualité des sites internet de chaque structure. Donc revenons à notre chantier. Du coup, je vais essayer de ne pas prendre un temps de parole trop important puisque moi je me considère que le catalyseur d'une envie existante sur le territoire, d'une envie d'une gestion différente et d'outils techniques qui existent sur ce territoire permettant la sylviculture avec une approche environnementale tout à fait respectueuse. Du coup, voilà, je ne suis que le catalyseur et ça me permet aussi de rebondir sur les constats qui ont été dressés sur la sylviculture sur le territoire. Certes, il y a des problèmes, mais il faut ne pas oublier que ces problématiques sont liées aussi à des politiques publiques. Si on retrace un petit peu le XXe siècle et puis les politiques publiques sur le territoire pour la plantation, ce n'est pas de la faute des propriétaires uniquement. C'est-à-dire que on est parti dans une dynamique sylvicole qui aujourd'hui pose des problèmes, mais aujourd'hui on tente d'inverser ces tendances et malheureusement bon, on a encore peu de cas concrets, mais en voici un. Pour moi, je vais simplement tracer le contexte. Donc le contexte, c'est bien le territoire de Source en Action, la tête de bassin du Thorion. Là on est sur un sous-affluent du Thorion, donc une zone humide qui n'avait même pas été référencée dans les zonages zone humide. Donc oui, une parcelle qui n'avait pas été référencée comme zone humide, notamment par les travaux du Conservatoire botanique du Massif central. Et du coup, c'est voilà, par connaissance du territoire, par connaissance des animateurs de terrain, notamment Olivier Villa qui vous a fait une présentation ce matin, et également de la technicienne rivière de la communauté de communes Creuse Grand Sud qui connaît bien le terrain et qui m'a informé de l'existence de cette parcelle plantée. De ces éléments-là, moi je suis parti sur identifier ce qu'on pouvait faire pour restaurer cette tourbière, et puis avec qui et comment. Donc voilà un petit peu le cadre. Une des méthodes de priorisation des actions, une priorisation géographique des actions, c'est en partant du diagnostic permettant l'état écologique des masses d'eau. Et en l'occurrence, on est sur une masse d'eau particulièrement dégradée, et justement c'est des problèmes morphologiques. Les problèmes morphologiques, on a beaucoup parlé des problématiques agricoles, mais c'est donc aussi sylvicole. Et là, on est sur une tête de bassin tout près des sources, tout près d'un point de captage d'eau également, où on a un gros souci d'incision du lit mineur de ce cours d'eau. Avec, j'ai pas mis la photo, mais il y a un endroit où je peux rentrer dans le cours d'eau. Et on ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un enfoncement du lit qui est dû à ce qu'a détaillé tout à l'heure Peggy Chevillet. C'est vraiment un problème d'affouillement de berge et puis de manque de matériaux dû à un faible enracinement, enfin un faible maintien des berges par un enracinement de surface des résineux. Donc l'historique de la parcelle, je pense que Philippe Joran la présentera mieux que moi. En tout cas, moi je vais vous présenter les objectifs du parc et les objectifs dans le cadre de Source en Action. Les objectifs, c'était vraiment, d'une part, très localement, la restauration d'un milieu assez emblématique sur le territoire. Donc ça, je vais pas revenir sur les fonctionnalités des tourbières. Mais au-delà de l'aspect très local, c'est encore une fois, d'initier une dynamique et d'initier un partenariat durable avec les partenaires donc ici présents, un propriétaire forestier, un groupement forestier, et puis la CFBL qui se présentera mieux que je ne pourrais le faire. Donc l'exemplarité, c'est... j'ai pas les chevilles qui enflent, mais c'est simplement... l'idée, c'est l'objectif, c'est l'exemplarité, c'est le dynamisme, la reproductibilité sur d'autres territoires par d'autres maîtrises d'ouvrage que le PNR. Même si nous, sur ce chantier-là, on a voulu être maître d'ouvrage, c'est vraiment pour lancer cette dynamique. Mais cette dynamique, elle a été permise vraiment aussi grâce à Philippe Jorand et un propriétaire forestier qui a vraiment souhaité partir dans une nouvelle démarche, sachant que lui, il n'y gagne rien vraiment dans cette histoire, mais il présentera les raisons de cet engouement. Oui, l'aspect cohérence des actions menées dans le cadre du contrat territorial, juste en aval du chantier et de sa localisation, qu'on voit avec une vue aérienne, la communauté de communes Plateau de Gensioux à l'époque, avant 1er janvier 2014, avant sa fusion avec Aubusson-Felletin, donc maître d'ouvrage du contrat, avait programmé des actions de reméandrage du cours d'eau suite à un recalibrage. Donc en gros, on avait tracé un fossé à partir du cours d'eau. Donc là, il y avait tout intérêt de pouvoir agir en même temps sur un linéaire plus important. Donc aujourd'hui, on est sur un partenariat que je considère fort et que je crois qu'il va falloir maintenir et développer entre donc le PNR de Millevaches, le groupement forestier de la Brose, représenté par Philippe Jorand, qui est le gérant, et puis donc la CFBL. Entre une idée, la méthodologie pour déployer un projet de restauration des fonctionnalités hydrauliques d'une tourbière et puis limiter l'incision du cours d'eau, la méthode qu'on a choisie pour arriver à ce résultat-là, c'est une technologie peu développée sur le territoire, peu développée en tout cas sur des terrains plats, c'est la technologie du câble mât. Donc en gros, on coupe manuellement, on fait du bûcheronnage manuel sur la parcelle et on exporte le bois avec cette technologie qui vous sera présentée tout à l'heure. Une des exigences par contre du PNR, donc évidemment c'était la préservation de la tourbière, puisque l'objet c'est bien de la restaurer, mais c'était aussi de valoriser un maximum tous les produits issus de cette coupe. Donc, effectivement, c'est un petit projet au regard des besoins. Quand on se rappelle que sur le territoire du PNR, par exemple, c'est 50% de surface boisée, avec une majorité de résineux. Aujourd'hui, là, le projet se définit avec une coupe sur une parcelle qui fait à peu près 3,5 hectares, mais une coupe donc sur les bandes rouges sur le schéma qui représente à peu près 1,3 hectares. Pour 350 m3 d'épicéa de sitka, les épicéa de sitka ont été plantés sur les linéaires de cours d'eau et puis sur des fossés de drainage. En gros, on a curé, on a fait du drainage sur les talus, on a planté les arbres. Puis on a trouvé un compromis aussi avec l'animateur du site Natura 2000 qui travaille aussi au PNR. On est sur une zone forte sensibilité, notamment pour le circaète. Et du coup, on s'est entendu pour ne pas tout enlever entre le choix de faire une coupe à blanc sur une tourbière et le choix d'éliminer les épicéas et d'éliminer une partie des bouleaux et des pins qui ont été également plantés. Donc les pins concernent essentiellement les portions jaunes sur la carte. Par contre, export total de tous les bois sur une zone tampon de 10 mètres de part et d'autre des écoulements. Là où on peut faire une analyse rapide du manque d'outils pour travailler sur la sylviculture et l'eau, c'est que ce petit projet-là, c'est quand même 9 mois de travail. Alors, c'est pas à temps plein, mais c'est 9 mois pour préciser le projet. Donc ça, c'est tous les projets nécessitent un petit peu de réflexion, de dimensionnement et de choix de méthode. Mais c'est que derrière, il a fallu aussi faire une demande de coupe extraordinaire sur critères environnementaux au plan simple de gestion. Donc ça, c'est une première démarche administrative. Nous sommes là sur la ZPS Plateau de Millevaches, donc qui nécessitait également une étude d'incidence Natura 2000. Donc ça, c'est la deuxième démarche. Et puis ensuite, c'est trouver les bons termes pour bien identifier un partenariat clair et cohérent et durable surtout. Donc c'est l'établissement d'une convention entre le PNR et puis Monsieur Philippe Jorand. Sauf que là, on a eu quelques déboires puisque on doit sans doute en conclure que c'est une affaire un peu nouvelle puisque la préfecture nous a mis un peu des bâtons dans les roues sur cette histoire. Donc plusieurs allers-retours, je vous passe les détails, mais tout ça pour au final aucune modification du chantier. Donc, voilà. Et voilà, ensuite c'est un plan de financement et c'est l'établissement de partenariat avec, donc avec les partenaires financiers que sont l'agence de l'eau Loire-Bretagne et puis la région Limousin. En partenariat financier, on peut tout de même citer le groupement forestier de la Brousse, puisque l'ensemble des recettes issues de la coupe de bois est réinjecté pour payer ce chantier. C'est-à-dire que le groupement et le propriétaire ne font aucun bénéfice sur ce chantier et perdraient de l'argent si la coupe était réalisée sans ce projet mené par le parc. Donc voilà, en gros, un coût d'exploitation de 26 400 euros TTC et puis des recettes de 22 000 euros. Donc l'idée, c'est qu'on ne facture au parc que la différence, donc un budget au final, enfin un plan de financement basé sur 4 200 euros, 50% pris en charge par l'agence de l'eau, et puis nous sommes toujours en négociation avec la région pour essayer de déplafonner à 50% de participation de la région, chose non gagnée et non acquise, mais à minima 20% assuré. Donc en tout cas, on part, même si on doit autofinancer une partie du projet, on part quand même.
Et on laisse la parole donc à M. Joran. Vous êtes le gérant du groupement, forestier de la Brousse.
Je suis gérant d'un groupement forestier familial, c'est-à-dire il y a deux partenaires, ma soeur et moi-même, dont les forêts sont situées autour du bourg de Gensioux. Alors on voit le bourg de Gensioux un petit peu en bas là. Et l'ensemble du territoire forestier, ce sont les morceaux en couleur qui sont dessinés là-dessus. Et donc 250 hectares, c'est une propriété, le terrain est dans la famille depuis très très longtemps, et ça a commencé à devenir forestier progressivement au début du 19e siècle. Une forêt dont l'installation est ancienne et que maintenant je gère, mais qui est assez variée. Je fais un zoom autour du village de Gensioux, pour montrer que cette forêt, c'est une mosaïque d'essences et d'âges très divers. Les couleurs différentes ont des essences différentes. Et les âges, c'est une forêt qui est même installée depuis très longtemps, mais elle est jeune. Il y a 70% des arbres qui ont moins de 40 ans. Bon, alors c'est moi qui gère cette forêt. Gérer la forêt, ça veut dire d'abord la connaître, et ça veut dire décider chaque année ce qu'on va faire, les plantations, les entretiens, les élagages, les dépressages, les éclaircies, et puis quels arbres on va couper cette année, avec un objectif en termes de production de bois, c'est la production de bois d'œuvre, c'est-à-dire pour faire en gros de la charpente et d'autres choses. Donc chaque année on fait des plantations, et chaque année on coupe un petit peu des arbres aussi. Les arbres que je coupe, ce sont ceux qu'ont planté mon père ou mon grand-père, et ceux que je plante, c'est mes enfants, mes petits-enfants qui les couperont. Donc on voit clairement, quand on s'occupe d'un domaine comme ça, que le temps de la forêt n'est pas du tout le temps des hommes. Le même morceau de la forêt dessiné ici, pour montrer que ce qui est en vert, ce sont des futaies, c'est-à-dire des arbres qui ont plus de 15-20 ans. Il y a des morceaux qui sont hachurés en vert clair, qui ont moins de 15 ans. Il y a 85% de la forêt, de la propriété qui est boisée, et 15%, c'est-à-dire 38 hectares, qui sont pas boisable. Pas boisable, ça veut dire par exemple qu'il y a 4 hectares qui sont couverts par des lignes électriques. Il y a 8 hectares d'hiver, c'était des places de dépôt ou des trop proches d'une maison ou des choses comme ça. Et il y a 26 hectares de zone humide. Donc il y a à peu près 10% sur l'ensemble de la surface, un peu plus, qui est de la zone humide. C'est le pourcentage du plateau de mille vaches, hein, c'est 10%. 10% de zone humide. Là, c'est ce qui est en grisé, zone humide, sur le dôme qui est ici. Et j'ai entouré en rouge la partie concernée par le chantier dont il est question ici. Cette surface est donc là, en fait, tout près du village. Si je fais le même zoom, mais par une photo, on le voit ici, et je grossis l'image. C'est une zone humide, donc, mais qui a été boisée. Dans les années 60-70, à la fin des années 60, il y a des fossés qui ont été creusés avec pour but de drainer la zone humide. Et en 73, j'ai retrouvé dans les vieux papiers, des épicéastiques ont été plantés sur les talus de chaque côté des drainages, et des pins ont été plantés entre les drainages. Alors, à l'époque, dans les années 60-70, la gestion forestière ne prenait en compte que la production, la production, la production. Le gestionnaire forestier voulait produire du bois et n'avait pas d'autres soucis, en particulier aucun souci de type environnemental ou paysager. Il faisait du bois pour faire de la marchandise. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas ça, quoi. Il n'y avait pas ce guide. Maintenant, la gestion forestière doit prendre en compte bien d'autres dimensions que simplement la production de bois. Et j'ai évoqué les composantes environnementales, composantes paysagères, composantes sociales aussi. Cette forêt est près du village, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc c'est un petit peu mon souci, essayer de progressivement réorienter la gestion de cette forêt pour passer d'une gestion traditionnelle, plantation, éclaircie et coupe rase, à une gestion plus douce. 40 ans après, cette tentative de boiser cette zone humide, parce que l'idée c'était, c'est une zone humide, moi forestier je ne peux rien en faire, puisque mon but c'est uniquement de produire du bois, donc j'ai essayé d'en faire une zone forestière. 40 ans après, c'est un échec. Hein, c'est globalement un échec. Les arbres qui sont produits, qui sont actuellement, qui ont 40 ans, ils sont de qualité forestière assez médiocre. Et non seulement ça, maintenant c'est une chose qu'on ne prenait pas en compte à l'époque, mais ça perturbe gravement le fonctionnement de la zone humide. Alors le parc naturel régional de Mille Vaches a pris contact avec moi, c'était en novembre 2013. C'était pas Guillaume à l'époque. Et moi, je n'avais pas du tout conscience de ce problème, pas du tout. Ils m'ont fait découvrir, ils m'ont expliqué le problème de ces plantations dans cette zone humide. Et ils m'ont dit que c'était possible de rétablir le fonctionnement en faisant une exploitation un petit peu particulière avec beaucoup de précautions. Et j'ai donné tout de suite mon accord de principe en prenant en compte donc ces autres objectifs dans la gestion forestière que je viens d'évoquer, environnementale en particulier. Et puis les zones humides, finalement, sont importantes, même pour l'équilibre écologique de ma forêt. Ma forêt est voisine de ces zones humides. Voilà. Alors, il y a eu diverses rencontres. On a fait plusieurs visites sur le terrain. Et on a abouti avec le PNR à la rédaction et la signature d'une convention. Alors, au passage, Guillaume m'a évoqué qu'il a fallu que je demande... Bon, cette forêt est grande, donc il faut qu'elle soit soumise à un plan simple de gestion, mais cette exploitation-là n'était pas du tout prévue dans le plan simple de gestion, donc il fallait demander l'autorisation au Centre régional de la propriété forestière de couper ces arbres, et non seulement de couper ces arbres, mais normalement, quand on coupe des arbres sur une surface supérieure à un hectare, on est tenu de les replanter. Puisque c'est une zone humide et qu'on va la maintenir en zone humide, il faut que je demande l'autorisation de ne pas replanter aussi. Bon. Ce n'est pas des péripéties, c'est le règlement. Et étant franchi, on a donc abouti à une convention avec le parc naturel régional dont je vais évoquer brièvement les points principaux. Un premier point, c'est que nous, groupement forestier, on met cette surface à disposition du parc naturel régional. En fait, cette surface, donc, c'est la parcelle que j'ai plus ou moins entourée ici, c'est en fait un morceau d'une zone humide bien plus grande qui fait 11 hectares à peu près. Il y a une partie en amont et une partie en aval. On met cette surface à disposition du parc naturel régional et sans paiement de loyer. Le groupement forestier que je gère contribue, alors ça a été évoqué par Guillaume, contribue au financement de cette opération en mettant le bois qui sera extrait de la zone humide à disposition du PNR. Donc, les revenus correspondants vont contribuer au financement de l'opération. J'autorise le parc naturel régional à visiter et à faire visiter le chantier, bien sûr, et le suivi du chantier, comment ça va évoluer, et en contrôler l'évolution de ce territoire après l'exploitation, et là, cela sans limitation dans le temps. Je m'engage à ne pas replanter, et je délègue la maîtrise d'ouvrage du chantier au PNR. Et réciproquement, le PNR donc, assure la maîtrise d'ouvrage, et s'engage aussi à valoriser ma démarche de propriétaire forestier en faveur de cette opération, dans les temps qui viennent. Voilà.
C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment.
Exactement.
Et le chantier va commencer dans...
Dès que possible.
Dès que possible.
Dès que possible. On va... Merci beaucoup, Philippe, je remercie beaucoup. On va donner la parole donc à Éric Payot de la coopérative forestière Bourgogne-Limousin.
Oui, bonjour. Merci. Donc, on m'a demandé de montrer des images et des films. Donc là, oui, la coopérative forestière Bourgogne-Limousin, donc, qui réunit 12 000 propriétaires sur les trois régions Limousin, Auvergne et Bourgogne, fait de la gestion et de l'exploitation forestière. Et dans le souhait de mieux répondre à la fois à nos adhérents et puis aux exigences qui tiennent à l'environnement et qui tiennent aussi à, au respect des zones humides, nous avons développé une technique très différente de celle qui existe actuellement, puisque aujourd'hui on parle essentiellement de machines à roues ou éventuellement de machines à chenilles. Alors très peu, très rarement, mais machines à roues. Or, on se rend compte que de plus en plus, sur certains territoires et certaines forêts où on travaille, il n'est pas possible de faire d'exploitation avec ce matériel-là. Et de ce point de vue-là, nous avons initié il y a 3 ans, alors sous l'impulsion bien sûr du conseil d'administration de la CFL qui est composé de propriétaires, hein, dont en l'occurrence Philippe est aussi administrateur, de développer une nouvelle technique qui est la technique du câble-mât, alors qui est une technique qui est effectivement ancienne, qui est très ancienne en France, qui existait beaucoup dans les zones de montagne, mais qui a été complètement abandonnée, d'une part par le problème de pénibilité, surtout des problèmes de sécurité. Et pendant ce temps, il y a des pays comme l'Autriche, par exemple, qui ont énormément progressé, amélioré la technique, l'ont modernisée, mécanisée, et finalement, on revient aujourd'hui en France, quelques exploitants commencent à s'intéresser à cette technique-là. Alors, c'est essentiellement la montagne, c'est toujours un problème, enfin, essentiellement l'exploitation en montagne, hein, c'est finalement toutes les zones où on ne peut pas aller avec des machines à roues. Pour information, il y a actuellement 400 câblistes en Autriche, là où il y en a moins de 10 en France. Voilà, donc ça donne un peu la dimension et surtout l'expérience que notamment les Autrichiens, en l'occurrence, mais aussi les Tchèques et Italiens ont par rapport à la France. Alors ça, c'est en l'occurrence un chantier que nous avons réalisé sur la tourbière du Longéron l'année passée. Ce que je dois dire, c'est qu'en fait, la CFBL dispose d'une filiale, elle s'appelle la Mecafor BFA, donc sur laquelle nous avons des abatteuses et des porteurs, et puis nous avons donc cet ensemble câble-mât. Alors ici, j'aurais presque voulu la monter en dernier, mais ce n'est pas très grave. C'est l'exploitation qui a été faite sur la tourbière de Longéroux, chez l'ONF, sur la forêt de l'ONF, où là, il était question aussi de ramener en fonctionnement des tourbières avec la récolte d'épicéa sitka. C'est très similaire à ce qu'il y aura sur le groupement forestier de la Brose. En l'occurrence, ici, vous voyez en gros le système. Le système, c'est avant tout un câble porteur qui est placé à 12 mètres au-dessus du sol. Donc ce câble va servir de circulation du chariot téléphérique. Et ce chariot téléphérique va se déplacer en permanence à peu près à 10-12 mètres au-dessus du sol. Et ce même chariot est équipé de câbles pêcheurs qui vont permettre d'aller chercher des arbres au sol, de les tirer, de les porter, et ensuite de les ramener vers la zone de façonnage où on va retrouver une pelle mécanique. Ça veut dire donc que, de ce que disait tout à l'heure Guillaume, on va couper manuellement les arbres sur le terrain sans les façonner. Et les arbres en entier, on va les pêcher, les cueillir et les ramener par voie aérienne ou quasi aérienne, parce qu'il y a toujours la cime qui touche un peu le sol, jusqu'à la zone de façonnage, en dehors de la zone sensible. Donc de cette manière-là, vous comprenez qu'effectivement, on ne fait pas de dégradation. Et la méthode de pose du câble porteur est toute manuelle. C'est donc à la force humaine qu'il faut, dans un premier temps, tirer un petit câble, qu'on appelle une cordelette, à dos d'homme, tout le long de la ligne. Là, ici, on avait une ligne qui faisait à peu près 400 mètres. Donc sur 400 mètres, on va tirer cette cordelette qu'on va hisser sur des arbres supports. Vous voyez, tous ces arbres-là, c'était des arbres qui étaient sur pied. Il y a un homme qui est monté, qui est lagué, il a coupé la tête, et puis ensuite, il a installé la cordelette. Et vous avez ici, sur cette image, 2 arbres supports. Donc l'herbe intermédiaire qui va permettre de rattraper la flèche naturelle, la courbe naturelle de la, du câble porteur, de manière à maintenir le câble en hauteur, et puis l'arbre terminal qui lui supporte toute la tension générale du câble. Alors ce qu'on ne voit pas et ce qu'on va voir tout à l'heure dans les films, c'est qu'ici, à mon endroit, vous avez le mât, le fameux mât qui est porté sur une remorque, qui permet donc de tenir l'ensemble. Alors, quand je vous ai dit ça, je pense qu'il faut vous montrer des images. Alors c'est un film qui dure 10 minutes. Alors, en l'occurrence, ce film a été tourné par l'équipe qui fonctionne, donc notamment le bûcheron, qui est passionné aussi de films et qui a fait un très excellent travail d'amateur. En l'occurrence, si vous tapez Câble Mât sur YouTube, le premier film qui apparaît, c'est ce film, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez très bien à l'arrière, là on est en Bourgogne, un chantier qu'on exploitait à l'ONF, alors qu'il n'est pas une zone humide, simplement c'était une zone de pente sur le bord d'une rivière. Et vous voyez donc l'action du chariot téléphérique qui porte les arbres en entier, qui ont été préalablement coupés par un bûcheron, et qui arrive sur la zone de façonnage, donc sur la piste qui est en haut. Et quand les arbres arrivent en haut, effectivement, ils sont pris en main et façonnés. Donc là, le chariot qui redescend, le chariot est conduit radio-guidé, en fait, c'est l'accrocheur est ici. Donc on a trois hommes en permanence. Hein. Le bûcheron, l'accrocheur, vous voyez, qui, avec sa télécommande, amène jusqu'aux arbres entiers, voilà, qui se dégagent ensuite. Là, il est en train de commander, il est en train de pêcher les arbres, en entier, donc. Et qui les rapproche, ensuite, voilà, sous le câble porteur, et ensuite, une fois que le téléphérique a rapproché les arbres, ils sont montés jusqu'en haut et portés jusqu'à façonnage. Donc ici, on voit le mât de 12 mètres, okay, sur lequel il est porté sur une remorque, en fait. Hein, et ce mât, lui, on le déplace avec la pelle mécanique, hein, on le déplace sur les chemins, partout si nécessaire. Et ce même mât, pour le coup, lui, il est daubané hein, aussi. Hein, enfin, alors, tout est daubané. Vous savez, l'aubanage, c'est des renforts qui sont mis à l'aide de câbles tout autour des arbres autour, de manière à maintenir l'ensemble en équilibre. Voilà, donc vous voyez la hauteur, le haut du mât, en fait, hein, qui est lui-même aubané à des arbres. Tout ça, c'est fait manuellement. Puis ensuite, on a la machine qui vient façonner les arbres. Donc là, vous voyez ici, sur cette photo, la zone humide, enfin, la rivière qui est en bas, j'oublie le nom. On est dans le Morvan, et donc il y avait la lisière qui était conservée, et puis il y avait des zones de sensibilité très importantes, avec notamment des petits ruisseaux qui finissaient dans la rivière, qu'il fallait absolument respecter. Et là, ce n'était pas possible de le faire dans d'une autre façon que celle-là. Alors ensuite, je vais vous montrer... Donc là, c'est typiquement ce qu'on mettrait a priori en œuvre là où nous sommes, puisqu'il s'agit des pistes à Sitka que nous avons exploité l'année passée sur les monts de Moissac. Donc une propriété dont nous avons la gestion et sur laquelle il y avait aussi une problématique de zone humide avec des ruisseaux. Et là, particularité de celui-là, c'est que c'est un chariot différent. C'est trop technique, je ne vais pas rentrer dans cette élément. Mais bon, la capacité de portage, c'est 3 tonnes. Voilà, donc on peut tirer 3 tonnes avec ce chariot. Alors, on retrouve la même chose. Hein. Alors le bûcheron, vous ne le voyez pas parce que c'est lui qui filme. Mais on voit toujours l'accrocheur finalement qui prend les arbres et puis qui va les porter, aider à les porter jusqu'à la zone de façonnage. Alors donc là on est sur une zone absolument pas accessible aux engins. Il y a la sphaigne partout. Enfin on peut pas du tout pénétrer. Voilà et vous avez ensuite donc le troisième opérateur qui est dans la machine et qui façonne le bois. Voilà.
Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est inviter surtout tous ceux qui sont là aujourd'hui à venir assister à la coupe dès qu'elle va avoir lieu.
Alors ce que je dois dire, c'est que initialement, quand on a mis en place ces investissements-là, on était vraiment parti plutôt sur du travail en montagne. Hein. On était plutôt orienté sur l'Auvergne. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que, enfin, à mesure qu'on a acquis l'expérience aussi, hein, parce que ça fait 3 ans qu'on a mis ça en place. On a eu de gros problèmes de formation. Il n'y a pas de formation en France. Hein, donc, on s'est formé sur le tas, tout seul, avec des câblistes alpins et vosgiens. Mais c'est vrai que maintenant qu'on arrive à une maîtrise à peu près correcte, on sait diversifier. On est allé un peu plus sur des zones sensibles, du type tourbière, voilà, zone sensible, zone humide. Et à ce titre-là, effectivement, le travail de Guillaume a été particulièrement remarquable. Et nous avons maintenant le sentiment que nous allons pouvoir... nous diversifier, plutôt sortir de la montagne et aller plutôt sur des zones de sensibilité importantes, parce que là, en l'occurrence, cette technique, je l'espère, nous permettra de tisser et de stabiliser notre équipe de câble-mât sur ce territoire.
Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'était une table ronde autour du thème « Forêt et zones humides ». Enregistrée à l'occasion des deuxièmes rencontres du réseau des zones humides, le 7 février 2015 à Royères de Vassivière. Retrouvez toutes les tables rondes de ces rencontres sur notre site www.radiovassivière.com, rubrique conférences. Retrouvez également toutes les informations sur le réseau zones humides sur le site du Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, www.conservatoirelimousin.com.